Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des grands championnats européens. Je suis Arthur Merle, journaliste à Eurosport, très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Trois invités aujourd'hui et on va commencer avec, comme d'habitude, Elton Mokolo qui va balayer avec nous l'actualité de la Ligue 1 et se concentrer sur ce qui s'est passé en particulier dimanche soir entre le PSG et Lyon. 4-1 pour Paris et une question simple, le PSG de Luis Enrique est-il arrivé à maturité ? Il ira ensuite en Espagne, gros choc aussi du côté de la Liga dimanche, victoire 3-2 du Real Madrid face au Barça. Quel est l'avenir du Barça ? Quel est l'avenir de Xavi ? C'est un peu flou, on va demander à Anna Caro de nous éclaircir. Et puis on terminera avec la Première Ligue. Philippe Auclair a évidemment été attentif à ce qui s'est passé en FA Cup avec un Manchester United tout proche de l'humiliation, mais aussi à ce qui a eu lieu en Première Ligue. Liverpool et Arsenal gardent le rythme et c'est sur les Gunners qu'on va se concentrer encore plus. Arsenal peut-il cette année lutter jusqu'au bout ? Eh bien, on va demander ça à Philippe. Voilà pour le programme, le rappel habituel, Tour d'Europe est à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast. Pour ça, il vous suffit de taper Eurosport Football Club sur vos plateformes. Et puis, vous retrouverez les meilleurs moments de l'émission en vidéo, en petite pastille, comme chaque semaine sur eurosport.fr. On est prêt, on peut y aller. On commence donc ce Tour d'Europe en Ligue 1 et on retrouve notre expert du football français comme d'habitude, Elton Mokolo. Salut Elton, on en parlait juste avant, on a passé un très beau week-end de Ligue 1, on a pas mal de choses à se raconter. Évidemment on va revenir sur ce qui s'est passé entre le PSG et l'OL dimanche soir, mais avant ça on va procéder par étapes et on va partir peut-être du bas de classement. Elton, il y a eu des résultats très importants ce week-end. On peut estimer que Montpellier s'est sauvé et puis que Metz a réalisé un très gros coup.
Bonjour Arthur, en effet, ouais, ça a été un week-end riche, divertissant à tous les niveaux, à commencer par ce qui s'est passé en bas de tableau. Montpellier, oui, on peut considérer qu'ils sont quasiment sauvés dans la mesure où, pour moi, l'anomalie, c'était Montpellier qui se battait pour le maintien. Ouais. Parce que quand on regarde la nature de l'effectif, alors attention, ce n'est pas Montpellier 2012, mais il devrait être au minimum, et je dis bien au minimum dans le ventre mou. Et là, cette victoire a été une confirmation. De toute façon, on le sait avec Der Zakarian, c'est un entraîneur de série qui est capable d'avoir cette série positive qui te permettra de t'éloigner de cette zone rouge. Et donc, c'est une vraie bonne opération pour Montpellier. Du côté de Metz, on est vraiment sur un week-end bascule. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est sur un week-end bascule où là, la perspective a évolué à la faveur d'une victoire très importante face à un candidat également au maintien, à savoir Le Havre. Le Havre qui est vraiment en déliquescence en termes comptables, c'est-à-dire que là, ils doivent davantage regarder vers le bas, beaucoup plus que vers le haut. Dès lors qu'il y a un élément qui fait défaut, c'est le réalisme. Ils ont encore retouché la barrière. Et d'un côté, Metz, ils sont emmenés par un joueur qui fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Non, il faut quand même le dire, c'est Miko Tadze. Alors, il y a des gens qui diront qu'il n'est certainement pas prévu pour jouer à Metz, parce que je vous rappelle, il est prêté par l'Ajax. Enfin, la responsabilité, la maturité avec laquelle il est en train de relever Metz, bon, même si le football reste un sport collectif, mais est quand même déterminant sur l'apport statistique, et bien tout ça fait que Metz aujourd'hui peut de nouveau rêver au maintien et que là, ils sont vraiment dans la course.
Si on remonte un petit peu le classement, on avait trois équipes qui avaient déçu la semaine dernière, Nice, Rennes, Lens, qui avaient lâché des points. Ces trois équipes se sont réveillées et globalement, on est sur un trio qui vont se battre à peu près pour les mêmes places en Ligue Europa, Ligue Europa Conférence.
Oui, on parle de victoires qui sont rassurantes. Alors, des victoires qui restent timides, je dirais notamment pour Nice, Lens. Pour Rennes, je mettrais en fin de match, oui, ils arrivent à faire la différence par rapport à nous, parce qu'il ne faut pas oublier que la première période n'a pas été de grande qualité. Mais c'est vrai que ce sont des victoires importantes parce qu'il fallait retrouver le goût de la victoire. Et force est de constater que ça a été fait. Bon, alors bien sûr, les gens mettront en avant la réalité des adversaires. C'est sûr que ce n'était pas forcément des adversaires de très grande qualité. Je fais notamment référence à Clermont et Nantes pour Lens et Rennes, mais ça reste des victoires qui sont très 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 utiles dans la perspective de la fin de championnat.
On aura peut-être l'occasion dans les semaines à venir, c'est même certainement l'occasion dès la semaine prochaine d'évoquer un peu plus l'OM, qu'on va peut-être laisser de côté pour ce lundi. Un OM qui fatigue un peu, on le sent, avec un effectif très réduit. Pour se concentrer peut-être sur ce Monaco-Brest qui a confirmé les dynamiques actuelles des deux équipes. Un Monaco globalement qui est quasi assuré de terminer dans le top 4. Est-ce que Brest peut craindre, au-delà de sa place sur le podium, de sortir du top 4 selon toi, ou alors il y a de la marge suffisante du côté du club breton?
Il y a de la marge, mais attention, méfiance, il y a des choses qui me plaisent un peu moins du côté de Brest. Alors Brest, attention, fait une saison extraordinaire, mais Brest est en train de découvrir la gestion d'un sprint final. Et clairement, ça se voit. Pourquoi je parle de la gestion d'un sprint final? C'est parce qu'il y a des rencontres à 6 points, et là, hier, c'était des rencontres à 6 points. Ce que je veux dire par là, c'est que Brest peut toujours déployer son jeu, mais face à ce type d'opposition, ça demande un peu plus. Et là, on a vu que Brest a eu un défaut de réalisme. Et ça peut avoir son impact sur la fin de saison. Autre élément qui, pour moi, est très important, c'est la gestion des nerfs. Et là, on est sur un sprint de fin de saison. Et pour moi, c'est pas étranger de voir que Brest perd deux fois de suite face à Lyon, face à Monaco, et qu'en même temps, il y a une gestion des nerfs qui soit discutable. Je veux dire, face à Lyon, avec des situations rocambolesques, certes, mais aussi face à Monaco. Moi, je pense que Brest, ok, le premier but, il peut y avoir interprétation, et d'ailleurs, il y a eu interprétation de l'arbitre, mais de là à voir les Brestois, et notamment son entraîneur Yric Roy, s'énerver, alors que derrière, il y avait 45 minutes, moi, je pense que ça va être la marge de progression pour Brest. Mais en même temps, pour moi, c'est quelque chose qui est très logique, parce que c'est une équipe qui n'est pas programmée pour ça, et qui est en train de découvrir la gestion d'un sprint final en haut du classement de la Ligue 1. Donc, moi, je dis, attention, Brest, pour moi, restera en Ligue des Champions, mais pas nécessairement sur le podium, quand tu vois ce que peut faire Monaco, quand tu vois ce que peut faire Lille. Et là, il y a un match qui est très important dimanche prochain face à Rennes. Enfin, le week-end prochain, plutôt.
Bon, allez, on va basculer sur ce match qui nous intéresse tant, ce PSG-OL qui s'est déroulé dimanche soir, 4 buts à 1 pour Paris. Bon, Elton, on a vu une démonstration parisienne, notamment en première période. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Est-ce que c'est la force parisienne, ou est-ce qu'on tempère aussi un petit peu par rapport au niveau et au plan tactique de l'OL qui a un petit peu échoué?
Ce que je retiens, c'est le collectif parisien, parce qu'il y avait une revue d'effectifs, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient remplaçants, commencé bien évidemment par Kylian Mbappé, mais là, c'est plus tellement une surprise. Ousmane Dembélé était également sur le banc, Lucas Hernandez était suspendu, donc on a eu une équipe du PSG, pas bricolée, mais revisitée, parce qu'on sait que Luis Enrique attache beaucoup d'importance à ce que le collectif soit impliqué de bout en bout jusqu'à la fin de saison, parce que le PSG est encore en course sur trois compétitions. Après, c'est vrai que le PSG est aidé par le fait qu'il y a une ouverture du score précoce, et donc que ça permet de valider cette idée d'avoir une revue d'effectifs. Le deuxième but arrive très rapidement, et surtout, on a vu un Olympique Lyonnais qui, sans ballon, a été en extrême difficulté. C'est la marge de progression de cette équipe sans ballon. On a déjà entrevu ça face à Lens, on a déjà entrevu ça face à Brest, même si tu finis par l'emporter. Sans ballon, et encore plus dans le football en 2024, c'est rédhibitoire d'afficher ses lacunes. Et quand tu arrives au Parc des Princes face au PSG, même sans Kylian Mbappé, même sans Ousmane Dembélé, il reste quand même des joueurs de qualité, à commencer par un joueur que tu as formé, Barcola, qui est quand même impliqué sur les trois buts. Donc on a vu un PSG qui a réussi à faire une démonstration de force sur la première période. La deuxième période a été un peu plus gérée, mais on va rester quand même sur la première période où on a quand même eu des enchaînements de qualité. J'en veux pour preuve le troisième but avec l'avant-dernière passe de Barcola, le très beau centre d'Hakimi pour Gonçalo Ramos. Et même si ça a été un match qui a été ouvert, parce que l'Olympique Lyonnais, il ne faut pas l'oublier, a eu aussi des situations, a eu aussi des occasions. Nouama a notamment réduit le score à 3-0. Et ben, il y a quand même un, voire deux mondes d'écart entre les deux formations. Et c'est quand même assez représentatif au niveau du championnat. Maintenant, on se voit venir. Est-ce que ça va engager sur Est-ce que ça va avoir un impact sur la finale du 27 mai? Ça, je sais pas, parce qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent évoluer, notamment la gestion de fin de saison pour le PSG, avec pourquoi pas une finale à Wembley, un Olympique Lyonnais qui progresse sur l'aspect sans ballon, mais toujours est-il qu'à l'instant T, sur cette rencontre, un PSG revisité n'a eu aucun mal à mettre une raclée entre guillemets à l'Olympique Lyonnais.
PSG revisité, tu l'as dit, donc on a vu Ramos marquer, Bradley Barcola, tu l'as dit aussi, réaliser un match plein. Et globalement, on arrive à une époque où le PSG était censé être à maturité. Question toute simple, est-ce que c'est le cas selon toi, Elton? On a un Luis Enrique qui semble avoir trouvé son équipe type, qui vient d'éliminer le Barça, qui vient de surclasser l'OL. Voilà, est-ce que l'OL, le PSG pardon, de Luis Enrique est à maturité ou est-ce qu'il ne faut pas être trop aveuglé par cette semaine de rêve?
Pour moi, le PSG n'est pas encore en maturité, je l'ai toujours avancé, le PSG est une équipe imparfaite. Et la représentation justement parfaite de ça, c'est ce qui s'est passé à Barcelone. À savoir que oui, tu gagnes 4-1, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, tu perdais 1-0. C'est-à-dire que c'est une équipe qui reste encore friable, qui reste encore perfectible. Mais pour moi, c'est normal parce qu'on est dans un processus avec le PSG de Luis Enrique. Il y a des joueurs qui sont sur leur première saison. On a fait référence à Barcola, on a fait référence à Gonçalo Ramos, on peut faire référence à Beraldo qui a marqué hier. Donc tout ça joue sur le fait que le PSG n'est pas encore une équipe à maturité. Maintenant, est-ce que c'est rédhibitoire pour aller chercher les 3 titres? Je ne pense pas parce que dans le football, encore plus aujourd'hui, il est question de dynamique. Et si le PSG se retrouve dans une dynamique qui est positive, avec des concours de circonstances qui sont favorables, je fais référence par exemple à un tirage au sort qui est sur le papier un peu plus abordable que le fait d'affronter le Bayern ou le Real Madrid. Bon, Dortmund, tu vas les retrouver. Faut pas oublier que Dortmund a terminé devant toi en poule. Et ben, le PSG peut en profiter, peut aller chercher tous les titres possibles. Là, la semaine prochaine, bah, dès cette semaine, tu peux être champion à la faveur des circonstances favorables. La finale de Coupe de France est contre l'Olympique Lyonnais qui n'a rien d'un adversaire insurmontable. Et enfin, la Ligue des Champions, la dimension aléatoire est certes plus importante, mais le PSG, avec un match retour à la maison, en demi-finale, peut s'offrir une finale. Donc pour moi, oui, le PSG, en étant parfait, peut aller chercher les 3 titres.
Bon, effectivement, encore beaucoup de points d'interrogation, mais une certitude, le PSG va vivre une fin de saison absolument palpitante et on va suivre ça. On va ouvrir un dernier dossier pour ce lundi, Elton. Il y a une journée en retard, enfin 3 matchs en retard qui vont se disputer mercredi. Lorient PSG, Monaco Lille et Marseille Nice. Des matchs décalés pour trois équipes qui étaient européennes la semaine dernière, donc le PSG, Lille et Marseille. C'est passé pour Paris et Marseille, c'était vraiment pas loin pour Lille, et c'est la 9e fois dans l'histoire du foot français qu'on va avoir deux clubs la même saison en demi-finale de Coupe d'Europe. C'était pas arrivé depuis 2020 et le Final Four. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que ça dit quelque chose sur le foot français, sur les attitudes de ces équipes selon toi, Elton?
Pour moi, la vérité est à mi-chemin. C'est un concours de circonstances parce qu'effectivement, déjà, l'Olympique de Marseille, à la base, n'était pas prévu pour la Ligue Europa. Ça, faut quand même le rappeler. Ils étaient en Ligue des Champions. Donc, là-dessus, on peut avancer le concours de circonstances, à savoir que l'Olympique de Marseille a été reversé en Ligue Europa. Alors, oui, derrière, ils ont eu un parcours qui a été plutôt pas facile parce qu'il faut quand même rappeler que là, il y avait l'Ajax, il y avait Brighton, il y a eu Villarreal et donc, il y a eu Benfica. Et c'est plutôt un concours de circonstances. Le PSG, on l'a vu, ils ont réussi à profiter du fait que, il y a eu un rouge pour le Barça et que derrière, ils ont réussi à remonter un score qui n'était pas forcément facile à gérer. Mais maintenant, pour moi, c'est représentatif parce que on a vu, pour moi, la vérité est à mi-chemin parce qu'on a vu deux équipes bien se comporter, notamment sur des tournants à l'intérieur de ces compétitions. Que ce soit en Ligue des Champions, faut pas oublier que le PSG, à un moment donné, était quasiment éliminé à la 5e journée face à Newcastle. Ils perdent 1-0, ils ont réussi à revenir. Faut pas oublier que le PSG était mené 1-0 face à Dortmund lors de la 6e journée. Ils ont réussi à revenir. J'ai évoqué l'exemple de Barcelone. Du côté de l'Olympique de Marseille, faut pas oublier que à chaque fois, notamment sur face à Villarreal, ils étaient pas loin de la prolongation. Face au Benfica, ils sont allés au tir au but. Mais ces deux équipes ont réussi à négocier des tournants qui ont été décisifs et qui n'ont pas permis et qui t'ont permis de ne pas être éliminé. Donc je pense que pour moi la vérité est à mi-chemin et que forcément on nourrissait de grands espoirs pour le PSG en Ligue des Champions, un peu moins pour l'Olympique de Marseille parce qu'on avait dans l'idée qu'il serait en Ligue des Champions, mais toujours est-il que l'Olympique de Marseille, dès lors qu'il est reversé en Ligue d'Europa, se doit d'aller loin. Et moi je pense que le contrat est rempli pour l'Olympique de Marseille en Ligue Europa, le contrat est rempli pour le PSG en Ligue des Champions et que d'une manière globale, avec on peut inclure Lille, on peut inclure pardon, Rennes, on peut inclure Lens, je pense que la saison européenne est réussie pour les clubs français parce que on demandait de la performance, de la constance, et je pense qu'on a eu ça avec deux des trois clubs, et même on peut inclure Lille parce qu'ils perdent au tir au but.
Ouais, effectivement, Lille, c'est peut-être l'exemple le plus intéressant parce qu'on a eu un prétendant au top 4 en Ligue 1 qui a regardé droit dans les yeux le quatrième de Première Ligue. Ça, on peut quand même en tirer des vrais enseignements sur le niveau de notre championnat ou je m'emballe un petit peu?
Alors moi, je pense que c'est circonstanciel par rapport à la qualité de l'opposition fournie par Lille, parce que ce que j'ai beaucoup aimé du côté de Lille, c'est que à aucun moment, que ce soit au match aller, que ce soit au match retour, il y a eu de la soumission par rapport au fait que c'était un quatrième de première ligue, il y avait des moyens économiques, des moyens sportifs qui n'avaient rien à voir. Lille a entre guillemets démystifié tout ça et Lille a produit de grosses performances. Alors, il y aura des regrets sur le fait que le premier quart d'heure à Aston Villa est pas bien géré, que tu prends un but. L'entame de la seconde période, tu prends un deuxième but, et tout ça, c'est un impact sur la double confrontation. Mais toujours est-il que Lille, dans l'attitude, dans la qualité footballistique, pour moi, était supérieure à Aston Villa, et qui doivent leur élimination au fait qu'il y a eu des détails qui ont tourné en faveur d'Aston Villa, la gestion des coups de pied arrêtés au match aller et une erreur au match retour avec Chevalier qui malheureusement est impliqué. Donc pour moi, Lille a vraiment avancé dans sa quête de l'Europe, en dépit du fait qu'ils ont été éliminés. Et on a envie de voir un Lille avec la même ambition, avec la même attitude en Ligue des Champions. J'espère, avec un Paulo Fonseca qui, on le sait, est en fin de contrat. Parce que pour moi, il est vraiment tributaire du fait que Lille a eu ce comportement-là en Conférence Ligue.
On suivra évidemment les demi-finales de l'OM et du PSG en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Merci Elton pour ton
Merci.
analyse. On se retrouve très vite et justement pour parler de Coupe d'Europe, entre autres. Bonne journée à toi et nous, on file du côté de l'Espagne. On enchaîne ce tour d'Europe du côté de l'Espagne et on rejoint Ana Caro, notre spécialiste de la Liga. Salut Ana, j'espère que tu as passé un bon week-end. On l'a dit en introduction, on va bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé entre le Real et le FC Barcelone dimanche soir, mais on va d'abord toucher un mot peut-être de l'Atlético, Ana, qui a concédé, j'ai lu les stats Opta en bon élève, sa 11e défaite à l'extérieur, toute compétition confondue cette saison dimanche, à Alavés. Et au final, on a un Atlético qui commence à avoir la pression dans la course à la Ligue des Champions.
Oui, et c'est pas forcément étonnant parce qu'on a vu l'Atlético qu'on a vu depuis le début de saison à l'extérieur. Un Atlético qui est très très en difficulté. Et on a vraiment deux équipes de l'Atlético cette saison parce que celle qui est à domicile joue extrêmement bien, est extrêmement efficace, marque énormément de buts d'ailleurs, est très jolie à voir. Et puis bah, il y a l'équipe qui est à l'extérieur qui n'a rien à voir et c'est paradoxal parce que quand on voit les joueurs qu'il y a, que ce soit donc à domicile ou à l'extérieur, c'est des joueurs qui sont quand même très expérimentés et qui doivent avoir l'habitude de gérer ce genre de moments compliqués. Et hier encore, défaite à Alavés. Et c'était pas du tout dans les plans, évidemment, de l'Atlético, parce qu'Alavés, c'est un candidat normalement à la relégation. Et puis ça met quand même l'Atlético en grande difficulté parce qu'aujourd'hui ils sont quatrième. Et puis bah, ils pourraient voir l'Athletic Club de Bilbao leur passer devant. Et on sait que l'objectif de l'Atlético, l'objectif de Simeone, c'est de se qualifier absolument pour la Ligue des Champions via le championnat. Et pour l'instant, c'est pas garanti encore.
Bon, pour le Real et pour le Barça, en tout cas, la qualification en Ligue des Champions, elle semble garantie. On va s'intéresser justement à ce qui s'est passé entre les deux équipes dimanche soir, le Classico. C'était un peu la dernière chance de titre pour le Barça, finalement défaite 3-2. Avant de parler de ce qui s'est passé durant cette rencontre d'un point de vue footballistique, on peut peut-être revenir sur cette petite polémique autour de la goal line. Anna, explique-nous ce qui s'est passé aux alentours de la demi-heure de jeu et pourquoi ça a tant fait parler, avec notamment un Marc-André Ter Stegen qui a parlé de honte à la fin de la rencontre.
Oui, alors c'est bah, Lamine Yamal qui a marqué ou ou pas, on sait pas vraiment finalement, et qui met en tout cas un ballon au niveau de la ligne du but de Andriy Lounine, le gardien du Real. Et en fait, il n'y a pas la goal line technology en Espagne parce que ça coûte 3,5 millions d'euros par an à la Liga. Enfin, ça coûterait 3,5 millions d'euros par an en termes de technologie. Et c'est une somme que Javier Tebas estime futile parce qu'il estime qu'avec le nombre de caméras qu'a la Liga, parce que c'est le championnat d'Europe qui a dispose le plus avec le plus de caméras avec la première ligue. Il estime qu'en gros, on n'a pas besoin de ça parce qu'il y a déjà suffisamment d'angles de caméras partout sur le terrain pour enfin corriger en cas de doute. Bon bah fait est qu'hier, c'était pas le cas parce que Andriy Lounine, donc quand il se couche pour récupérer le ballon de Yamal, il se tourne enfin, il se courbe et donc on ne voit pas le ballon qui est au milieu de son corps, entre guillemets, et on ne sait pas finalement si le ballon est rentré ou pas. Côté catalan, évidemment, on dit que oui, le ballon est rentré. Côté madrilène, on s'en fiche un peu parce qu'on a gagné le Clasico et c'est pas très grave. Et puis au final, il y a Javier Tebas au milieu de tout ça qui tente de se défendre et qui dit bah regardez, il y a eu des problèmes avec la VAR dans tel pays, sauf que les articles qu'il a ressortis pendant le match, et ça qui est assez hallucinant, bah, ils datent de 2016-2018, sachant qu'on est en 2024, la technologie a énormément évolué depuis. Et évidemment, bah, ça fait quand même tâche parce que c'est déjà arrivé, hein, évidemment, en Liga, qui elle, ce doute-là, à savoir sur le ballon a franchi la ligne ou pas. Sauf que c'était jamais arrivé en Classico. Et là, quand t'as toute la planète qui te regarde, bah, ça la fout un peu mal.
Effectivement, ça fait un petit peu tâche. Bon, en tout cas, il s'est passé énormément de choses dans cette rencontre. On l'a dit, victoire 3-2 du Real en toute fin de match grâce à un but de Jude Bellingham. Raconte-nous un petit peu cette rencontre. Est-ce qu'elle a été très équilibrée? Est-ce que ce match, cette victoire est méritée pour le Real? Parce que bon, y a peut-être des gens qui étaient un peu plus concentrés sur notamment ce qui se passait du côté du Parc des Princes dimanche.
On a vu un beau classico, honnêtement, c'était. On va dire que c'est assez rare ces dernières années. Donc là, on a eu un beau classico avec un classico à 21h déjà, parce que ça arrive très rarement, vu que c'est souvent déplacé pour les publics étrangers. Avec une première période vraiment équilibrée, on a vu un Barça finalement en fait capable de jouer au football qui était plus rassurant en première période par rapport à ce qu'on avait vu côté Montjuïc contre le PSG. Donc une première période très sympathique, on va dire. Et puis en fait, au fur et à mesure, le Barça a un peu perdu du terrain parce qu'ils ont eu aussi des blessés. Hein. Il y a Frankie de Jong qui est sorti sur civière, notamment avant la pause. Et puis le Real Madrid, en fait, qui était beaucoup plus efficace dans le dernier tiers que le Barça. Et encore une fois, c'est Jude Bellingham qui vient sauver le Real Madrid, qui avait déjà permis au Real Madrid de s'imposer au Classico en Liga en match aller. Et c'est surtout une stat qui fait très mal parce que Xavi n'a remporté aucun de ses Classicos en tant qu'entraîneur en Liga, et c'était pas arrivé depuis les années 1940. Donc voilà, finalement, c'est plus le bilan à la fin qui fait mal et aussi qui scelle pratiquement le titre du Real Madrid en Liga, alors que c'était la dernière chance du Barça s'il voulait faire quelque chose cette saison. Et voilà, on est le 22 avril et la saison du Barça est terminée. Et celle du Real Madrid, ne fait que commencer presque.
Effectivement, 11 points de retard sur la tête pour le Barça, donc le titre est bouclé. Élimination en quart de finale de Coupe du Roi, hein, si je dis pas de bêtises. Défaite en finale de Supercoupe d'Espagne. Élimination en quart de Ligue des Champions aussi, évidemment, on a suivi ça de près face au PSG. Est-ce qu'il y a un risque que le Barça, sur cette fin de saison, lâche complètement la rampe? On a vu, par exemple, des débuts de petites polémiques après les déclats d'Ilkay Gundogan sur Araujo notamment, Araujo qui lui avait répondu. Est-ce qu'il y a des débuts de tension? Est-ce qu'on sent une situation qui peut exploser ou pas du tout?
Alors, la tension entre Gundogan et Araujo, elle était très récente. Enfin, elle est toute nouvelle. Elle sortait juste après le match. Et c'est sans doute des propos qui auraient dû s'échanger dans le vestiaire et qui n'auraient pas dû sortir dans la presse, évidemment. Mais globalement, on n'est pas sur un groupe qui vit mal. Ça se passe plutôt bien. En plus, c'est un groupe qui est assez jeune et les plus âgés ont plutôt un rôle d'encadrant, finalement, de tous ces jeunes-là. Donc, sur ce côté tension dans le groupe, ça devrait bien se passer. Le problème, c'est effectivement, d'ici fin de saison, il ne reste plus rien à jouer. L'intérêt finalement pour le Barça et même pour les supporters, ça va être peut-être de voir des jeunes émerger qui vont sans doute avoir du temps de jeu parce que le Barça a quand même beaucoup d'avance hein, sur l'Atlético qui est quatrième. Alors, il y a cet enjeu de deuxième place quand même à conserver, parce qu'après, évidemment, pour les classements, les chapeaux, etc., en Ligue des Champions, ce sera important. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile, parce que le Barça, là, sort vraiment d'une semaine noire, hein, honnêtement. Élimination en quart de Ligue des Champions, ce classico de perdu. Et puis même si on va plus loin, chez les filles ont perdu aussi en demi-finale de Ligue des Champions. Finalement, la presse catalane titrait presque, bon, en fait, cette semaine est finie, donc maintenant on va passer à autre chose.
Enfin, on peut
Et
respirer.
exactement. Et peut-être que autre chose, ce sera aussi s'appuyer sur tous ces jeunes qui, en plus, hier, font un bon match du côté du Barça.
Effectivement, est-ce que, là j'étais dans une analyse très court terme, est-ce qu'à plus long terme, il y a une vague d'engouement et d'optimisme qui entoure ce club et qui entoure tous les talents, les Lamine Yamal, les Pau Cubarsí qu'on a déjà vu au niveau en Ligue des Champions, très honnêtement. Xavi aussi, on a parlé après à la fin de la rencontre, où il dit le Barça a un grand futur avec des jeunes de 16, 17, 19, 20 ans, la génération est très bonne et nous devons être fiers. Est-ce que c'est ça qui prime à l'arrivée?
Oui, parce qu'en fait, il y a eu énormément de déceptions cette semaine sur les cadres, ceux qui devaient tenir l'équipe dans des grands matchs comme il y a eu toute cette semaine. Par exemple, João Cancelo est énormément pointé du doigt pour ses performances, notamment en défense. Et quand on voit les performances qu'avaient pu faire des jeunes qu'il avait remplacés, alors évidemment, c'était sur des matchs beaucoup moins importants, etc., mais qui étaient, entre guillemets, plus fiables défensivement, il y a cette chose de dire, côté Barça, bah en fait, pourquoi on s'évertue à lancer des stars, à aller chercher des joueurs qui nous coûtent cher et qui, au final, bah, ne font pas forcément mieux que ce qu'on a à la maison. Finalement, c'est presque la seule chose que va garder le Barça de cette saison où il y aura zéro titre, c'est de se dire, bah, en fait, on a un centre de formation qui est toujours performant, avec des jeunes qui ont toujours très envie de performer au Barça, et de se dire, en fait, à l'avenir, on aimerait construire encore plus sur ces jeunes-là, parce qu'ils sont déjà très importants, hein, là, dans le 11, si on regarde, parce qu'il y aura le retour de Gavi aussi la saison prochaine, de se dire, on va encore plus compter sur eux. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'aller chercher à droite, à gauche. On a déjà ce qu'il faut à la maison. Et hier, notamment, c'était le cas de Cancelo, mais il y en a souvent Robert Lewandowski, par exemple, qui peut être critiqué aussi à ce niveau-là. Même Frankie de Jong, parce que finalement, Fermín López, quand il rentre, il fait un très bon match à sa place. Donc, c'est le seul point d'optimisme qu'il y a à Barcelone.
Il y a un point qui est flou, c'est la situation de Xavi. On le rappelle, il avait annoncé, après une défaite contre Villarreal le 27 janvier dernier, qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Alors, il est resté sur cette communication-là au fur et à mesure de l'avancée de la saison, des qualifications ou des éliminations. Il est resté, voilà, assez régulier dans son discours. Mais j'ai l'impression que dans la presse, il commençait à y avoir un petit doute. Alors j'ai vu que El Chiringuito parlait d'une éventuelle prolongation de l'aventure entre les deux parties. Enfin, en tout cas, que Xavi resterait. Bon, on va prendre des pincettes sur El Chiringuito. On sait que c'est pas le plus fiable des médias. Mais est-ce que c'est le seul média qui en parle? Est-ce que il y a voilà cette sauce qui commence à monter autour de Xavi qui pourrait finalement revenir sur sa décision ou pas du tout?
Oui, alors il y a plusieurs médias, même des médias catalans qui en parlent. Alors c'est pas des gros médias, c'est pas forcément les médias les plus fiables, mais bon, quand on sait l'entourage du Barça, de Barcelone, il y a énormément de monde qui gravite autour de tout ça, donc d'où vient l'info? Sûrement de quelque part, et pour qu'elle sorte à ce moment-là au niveau du Classico, c'est qu'il y a une bonne raison. Peut-être que il y avait un genre d'ultimatum en se disant, si jamais Xavi gagne ce Classico et renverse la Liga, alors peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosses infos sur là-dessus. Ce que ressortent plutôt les médias, c'est de se dire que pour l'instant, le Barça n'a pas de plan pour l'après Xavi. Et que peut-être que, à défaut de plan pour l'avenir, peut-être juste prolonger Xavi pour une saison de plus. Parce que La Porta, lui, ne fait pas confiance à Rafa Márquez, qui est l'entraîneur de la réserve, parce que il vient seulement d'arriver au club et qu'il a des bons résultats avec l'AB. Mais il a un très gros groupe avec l'AB. L'équipe réserve du Barça cette saison est très performante. Et pour l'instant, il n'est pas encore assuré de jouer la montée en deuxième division. Donc il y a des doutes, et en tout cas, on pense que ce n'est pas le moment pour le lancer avec l'équipe première. Et dans ce cadre-là, et avec aussi Hansi Flick qui a été évincé, bah, on se dit, pourquoi pas Xavi finalement. Et c'est plus sur ce prisme-là qu'il faut le prendre, de se dire que pour l'instant le Barça n'a pas d'autres options et donc envisage potentiellement de prolonger Xavi. Mais si jamais il y a une autre option et mieux qui se présente d'ici là, parce que Xavi a quand même lui répété qu'il souhaitait pas continuer, bah sans doute qu'on devrait plus trop entendre parler d'une potentielle prolongation de Xavi. Sauf si évidemment tout change, mais vu le classement du Barça en fin de saison, c'est assez peu probable quand même.
Et peut-être pour terminer, si l'aventure venait à se prolonger, comment elles sont les relations entre Xavi et son vestiaire? Parce que on sait qu'avec sa direction, il y a eu parfois des petites tensions avec Deco, notamment. Est-ce que avec la presse, il y a des tensions aussi? Mais les relations avec les joueurs, elles sont bonnes?
Les relations avec les joueurs sont très très bonnes. Tous les joueurs souhaitent que, en tout cas, tous ceux qui parlent souhaitent que Xavi prolonge. Les jeunes notamment lui font extrêmement confiance parce qu'il a très bien géré en fait l'incorporation de jeunes comme Pau Cubarsí ou Lamine Yamal. Il a fait attention qu'il soit pas trop exposé médiatiquement parce qu'il sait en fait lui-même en ayant été lancé très jeune au Barça ce que ça fait, ce que ça implique d'être lancé à cet âge-là. Donc il y a beaucoup de joueurs qui lui sont très très reconnaissants. Et même des joueurs comme on les citait tout à l'heure, Joao Cancelo, etc. Parce que c'est des joueurs qui, au moment où ils arrivent au Barça, personne d'autre ne veut d'eux. Et finalement, ils en ont fait, enfin, Xavi en a fait des titulaires au Barça. Donc il y a une grosse confiance autour de Xavi. Après, il y a des joueurs plus expérimentés comme par exemple Lewandowski ou Gundogan qu'on entend moins un peu sur ce futur de Xavi. On ne sait pas trop ce qu'ils en pensent, mais on peut dire qu'en immense majorité, le vestiaire soutient Xavi. Et quand même très content malgré tout de travailler avec lui malgré les résultats.
Bon, on va suivre ce qui se passera autour de l'avenir de Xavi dans les prochaines semaines. Et nous, Anna, on reparlera peut-être plutôt du Real Madrid dans les semaines à venir, puisque le Real, comme tu le disais tout à l'heure, est presque en train d'entamer sa saison, en tout cas une fin de saison palpitante à vivre en Ligue des Champions, en Liga. Merci beaucoup, Anna, pour ton analyse. On te retrouve très vite et nous, on va filer du côté de l'Angleterre. Allez, on termine ce tour d'Europe en Angleterre, qui était séparé ce week-end entre deux mondes, celui de la FA Cup et celui de la Premier League. On rejoint donc notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, on va d'abord se concentrer sur la FA Cup. Il s'est passé des choses intéressantes. Alors, victoire de Manchester City face à Chelsea, bonne réaction des Citizens après leur élimination en Ligue des Champions. Mais il y a surtout eu...
Oui.
Un Manchester United qui, contre Coventry, est passé à ça, peut-être de la plus grosse humiliation de son histoire.
Oui, à ça, je crois que c'est Mark Robbins a parlé de l'orteil de son joueur qui était en jeu sur le but qui aurait dû donner, pu et dû donner peut-être la victoire à l'équipe de Coventry. C'est magnifique équipe de Coventry dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, et puis ça n'a pas été le cas. C'est au tir au but après un petit numéro de cirque, on doit dire, de André Onana, qui n'a pas nécessairement plu à tout le monde, hein, on va dire ça comme ça. Mais un match, oui, ébouriffant, une demi-finale digne de cette magnifique compétition, malgré tous les problèmes qu'elle rencontre et dont je parlerai d'ailleurs, je fais un petit peu de pub dans ma prochaine chronique, puisqu'il y a eu pas mal de changements dans le règlement qui vont être effectifs à partir de la saison prochaine et qui vont quand même pas mal entacher son prestige. Mais là, on a vu pourquoi c'était une compétition qui tenait tellement au cœur des Anglais. Coventry, en plus de ça, c'est une équipe qui a un vrai passé en FA Cup. C'est la fameuse finale de 87, qui était sans doute l'une des plus belles finales de l'histoire de la compétition. Et puis là, la réaction de Coventry face à Manchester United, quand tu es mené 3-0 à l'heure de jeu par une équipe de Premier League, qui était en Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça. Que tu reviens au score, que tu égalises, que tu crois avoir gagné et que tu perds cruellement dans l'épreuve de tir au but. Ça en dit très, très long sur la mentalité, le talent de cette équipe de Coventry, entraînée au passage par quelqu'un qui a de très forts liens avec Manchester United, puisqu'il s'agit de Mark Robbins.
Ouais.
Mark Robbins, qui était le joueur qui avait marqué le fameux but pour Manchester United, qui avait sauvé la carrière d'Alex Ferguson. Un épisode très, très connu dans la carrière de Sir Alex, qui était sur le point de se faire virer lorsque Mark Robbins lui avait sauvé la peau donc face à Crystal Palace. Il fait un boulot superbe et quand tu compares les deux équipes, les deux comportements, tu comprends le jugement de Roy Keane très très dur vis-à-vis de ses anciens coéquipiers.
qui a dit s'il y avait une équipe qui ressemblait à une équipe de première ligue sur le terrain à Wembley ce dimanche, pardon, c'était vraiment l'équipe de Coventry, c'était pas celle de Manchester United, et encore qui a montré d'un signe faiblesse, avec en plus de ça des, je dirais, des choses presque extra-footballistiques, mais qui étaient sur le terrain et qui montrent à quel point il y a un malaise dans cette équipe. Je pense à la façon dont personne ne célèbre avec Højlund
Ouais.
lorsqu'il marque son tir au but. Je pense au comportement absolument déplorable, détestable, pas pour la première fois, de Anthony, qui a rien fait, qui était un remplaçant invisible et qui est allé narguer les supporters de Coventry City. Manque de classe absolue. Bon, pour quiconque connaît le bonhomme, c'est pas vraiment une surprise. Mais c'est un peu à l'image de cette équipe-là et des deux entraîneurs qui est celui qui s'en est sorti avec les lauriers, pas de la victoire, mais les lauriers de la reconnaissance du talent et de la préparation. Bah, c'est Robin, c'est pas Tanag. Donc oui, ils vont être en finale, cela dit. Donc pour la deuxième année consécutive, on va avoir un droit à un derby mancunien en finale de la FA Cup. L'année dernière, c'était Manchester City qui l'avait emporté 2-1. Cette année, vu la façon dont fonctionne cette équipe de United, même s'il s'agit d'un derby, et bien évidemment dans les derbies, la logique a tendance à passer un petit peu par la porte, hein, de la cuisine. En l'occurrence, tu vois mal comment cette équipe de United, pitoyable équipe de Manchester United, pourra faire face à Manchester City. Mais bon, ils sont en finale. Ils sont en finale. Donc, que veux-tu que je te dise? Le résultat était là, même si la manière, franchement, n'était pas convaincante. Et c'est être très poli que d'utiliser le mot pas très convaincant pour décrire la performance de Manchester United. Il y a vraiment du boulot. C'est pas parce que tu as un nouveau propriétaire à 25% qui est arrivé que les choses ont vraiment changé. En fait, le chantier, oui, c'est, je dirais pas que c'est un champ de ruines, mais ça y ressemble quand même un petit peu pas mal. Disons qu'il y a des briques un peu partout. Il va falloir trouver le maçon pour les mettre ensemble.
Bon, on a brièvement évoqué Manchester City qui a bien réagi donc à son
Oui.
élimination. Il y a deux autres
Face à un
équipes.
bon Chelsea, face à un bon
Oui,
Chelsea,
effectivement, face à un.
qui confirme la montée en puissance de cette jeune équipe, qui avait qu'une seule défaite en 12 matchs avant cette demi-finale de Cup, qui leur a donné du fil à retordre et qui monte petit à petit avec Pochettino.
Effectivement, une équipe de Chelsea qui monte et qui justement va affronter Arsenal en milieu de semaine. Match qui sera intéressant dans cette fin de saison, autant pour le niveau de Chelsea que pour des individualités comme Cole Palmer, qu'on a très envie de revoir, que une nouvelle fois pour la course au titre, parce que donc Arsenal et Liverpool, eux aussi, ont bien réagi ce week-end à leurs éliminations européennes en s'imposant tous les deux et donc en reprenant à égalité de points la tête de la Premier League, donc Arsenal en tête grâce à sa différence de but. Ma question va plus concerner Arsenal. La saison dernière, il y avait eu ce coup dur de la défaite face à Manchester City et on avait vu une fin de saison évidemment difficile avec deux défaites sur les quatre derniers matchs. Arsenal qui lâche un peu la rampe. Cette saison, il y a la défaite contre Aston Villa, puis cette élimination contre le Bayern. Ma question est la suivante, est-ce que on s'attend à la même fin pour Arsenal ou est-ce que la formation d'Arteta a suffisamment évolué pour, selon toi, arriver à se battre jusque dans les tout derniers instants de cette saison de Première Ligue?
Qu'on peut le dire sur la fois de la première mi-temps contre Villa qui était exceptionnelle, la seconde ne l'était pas, avec beaucoup de fatigue après le quart de finale aller contre le Bayern. La prestation contre le Bayern à l'Allianz Arena a été très très loin d'être ridicule, c'est moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il suffisait d'écouter Thomas Tuchel après la rencontre qui chantait les louanges de son adversaire, ce qui n'est pas une chose que Tuchel fait tous les jours, mais en disant ils sont au top européen maintenant, ça y est, ils sont là. Et la réaction face aux Wolves, qui était un déplacement compliqué. Alors je sais que les Wolves ne se battent pas pour une place européenne, ils se battent pas vraiment pour le maintien, ils sont assurés d'être premier l'année prochaine, quasiment. Mais ils ont vraiment fait une belle prestation, comme ils le font généralement face aux gros cylindrés. Et tu pouvais te poser la question, si jamais le premier but met un peu de temps pour venir, si jamais il y a quelques occasions également, il y a un sauvetage magnifique de David Raya sur son poteau. Si ça n'est pas le cas, tu peux te demander quelle va être la réaction psychologique. En l'occurrence, ce qui pour moi était le plus encourageant pour les Gunners, c'est le fait qu'après l'ouverture de la marque par ce but à la fois magique et très chanceux de Leandro Trossard, ce magnifique pointu extérieur qui va se ficher dans la lucarne, pas absolument certain que c'est là qu'il voulait envoyer le ballon, mais enfin c'est là qu'il a terminé. Ensuite, au fil des minutes, en deuxième période en particulier, on a vu une équipe d'Arsenal qui reprenait le dessus, qui n'est pas tombée dans ses travers des matchs précédents où tu sentais la fatigue qui était là. Là, Arteta avait fait un petit peu tourner au passage et on a retrouvé une équipe d'Arsenal plus dominante, mieux, qui a bien contrôlé la rencontre et puis qui a fini par l'emporter par Martin Odegaard dans les arrêts de jeu. Score peut-être un petit peu flatteur au vu de la physionomie de la rencontre. Pas une performance étincelante, scintillante, mais une performance qui avait montré beaucoup de cran. Après un début de rencontre un petit peu compliqué, hein, on les sentait encore sous le coup de ces grosses déceptions. Même William Saliba, tu sais ce que j'en dis tous les week-ends,
Bien sûr.
il n'était pas au mieux. Il y a eu un ou deux ballons perdus qui auraient pu être dangereux, mais ils ont retrouvé leur force. Et là maintenant, c'est contre Chelsea que les choses vont se jouer. Un énorme match, hein. Mais alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est que si Arsenal venait à battre Chelsea, Arsenal aurait 4 points d'avance sur
Ouais.
Manchester City. Alors, on va me dire que c'est, il y a tous les matchs en retard, mais la pression psychologique n'est pas du tout la même. À savoir que Manchester City savent, ils savent que eux non plus n'auraient plus droit au moindre faux pas. Et la plupart des matchs qu'ils ont dans leur programme à venir ne paraissent pas trop compliqués. Mais il y a quand même ce déplacement à Tottenham pour Manchester City. Et également le déplacement à Tottenham pour Arsenal. Mais en tout cas, Arsenal a fait le travail nécessaire pour que on puisse assister à une fin de championnat qui ne soit pas Manchester City déroulant en bleu sur ce tapis rouge qui lui a été offert par les défaites de Liverpool et d'Arsenal lors du week-end dernier. Heureusement, il y a eu réaction des deux, ça veut dire que le suspense va durer un petit peu plus longtemps pour deux.
Et donc dans la maturité et puis peut-être dans des plans de jeu un peu plus variés que la saison dernière avec Arsenal qui sait parfois
Oui?
ne faire que défendre. Ouais, tu sens qu'il y a quand même ce petit truc en plus par rapport à la saison dernière?
Oui, absolument. Et c'est là où tu vois l'influence énorme que peut avoir Declan Rice sur cette équipe. À d'autres égards, même s'il n'est pas dans tous les matchs, Jorginho aussi, qui est maintenant un des réguliers. Il y a une organisation qui s'est mise en place. On retrouve le Martin Odegaard également magnifique qu'on a connu la saison dernière. Mais c'est surtout l'apport de Declan Rice. Ça ne fait absolument aucun doute. Et puis, je le dis avec une petite pointe de regret dans la voix et dans le commentaire parce que j'adore Aaron Ramsdale. Mais il faut reconnaître que David Raya, après 2, 3 mois un petit peu compliqués, bon, a montré pourquoi Mikel Arteta avait décidé de choisir comme numéro un et pourquoi son prêt puisque il est actuellement en prêt, hein, va être sans le moindre doute, va devenir un transfert définitif à l'intersaison. Et de ce côté-là, oui, ils sont beaucoup plus solides. De toute façon, tu regardes les stats, Arsenal, c'est la meilleure attaque du championnat, c'est la meilleure défense. Pas compliqué. Donc, ça veut dire qu'ils savent faire les deux. Contre les Wolves, il a fallu défendre. Par moments, ils l'ont bien fait. Il y a des moments où ça ne marche pas complètement, comme contre Aston Villa, où il fallait absolument gagner. Ils ont peut-être payé un petit peu le prix de leur générosité. Mais sinon, oui, c'est une équipe qui a énormément évolué au niveau de son organisation, de la mentalité des joueurs également, du cran. Et puis, encore une fois, les individualités font la différence. Declan Rice, très honnêtement, il a coûté très cher, mais chaque penny de son transfert, à mon avis, a été complètement
Amorti.
justifié, oui, amorti, au vu, pas seulement de ses buts, mais de son impact, son influence sur le jeu. C'est le capitaine sans brassard de cette équipe, c'est le moteur, c'est également le premier défenseur, le premier vrai défenseur devant le back four. Non, la différence est plus que notable, elle est criante.
Eh bien, merci Philippe pour ton analyse. On sera très curieux de voir ce Arsenal Chelsea qui nous excite beaucoup sur le papier. Et on va continuer de suivre cette course au titre comme chaque semaine dans Tour d'Europe. Merci Philippe, on se retrouve très vite.
À très bientôt.
Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. Merci de nous avoir suivis. On remercie Adrien Hyot à la réalisation et Quentin Guichard pour les graphismes que vous retrouverez sur eurosport.fr. On vous dit à la semaine prochaine, lundi prochain, nouvelle semaine de Ligue des Champions à venir. Ce sera riche. D'ici là, l'actualité footballistique et sportive en général sera riche sur eurosport.fr et les antennes d'Eurosport. Bonne semaine à tous, à lundi.